I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le lundi 4 avril 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près.
Dans les épisodes précédents.
Depuis des années, Didier Raoult et son équipe de l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille conduisent des études scientifiques problématiques. Des études parfois menées sur des SDF ou des étudiants sans avoir obtenu les autorisations prévues par la loi et qui s'affranchissent de toute éthique scientifique. Ces révélations, on les doit à notre journaliste Victor Garcia, qui suit le dossier de très près. Et en octobre dernier, je lui demandais pourquoi ces manquements n'avaient pas déclenché de procédures disciplinaires, notamment de la part de l'ANSM, l'Agence de sûreté du médicament. À l'époque, ils me répondaient ça.
Ils ont mis de nombreuses semaines à me répondre pour finalement m'offrir une sorte de non-réponse où ils m'ont simplement indiqué que les vérifications étaient toujours en cours et que des compléments avaient été demandés à l'IHU. Donc ils m'indiquent également que si des manquements sont mis en évidence, des mesures nécessaires seront prises pour garantir la sécurité des participants et ou saisir la justice.
Vous vous en doutez, si on y consacre un nouveau podcast, c'est qu'il y a du neuf, les investigations de la NSM progressent et le professeur marseillais vient de reconnaître dans une lettre qu'il avait enfreint les règles tout en affirmant que ce n'était pas exactement sa responsabilité. Bref, l'étau autour de l'IHU se resserre sur fond de théories de plus en plus complotistes. Les études troubles de Didier Raoult, épisode 3. Mon résumé des épisodes précédents était très synthétique, alors on va faire appel au vrai spécialiste. Salut Victor.
Salut.
Victor, tu as décortiqué pour l'Express la lettre de défense envoyée par Didier Raoult à la NSM, dans laquelle il reconnaît donc une partie des transgressions de son institut, avec des arguments pour le moins étonnants, on va y revenir. Mais avant ça, on va donner toutes les clés à nos auditeurs pour être sûr qu'ils puissent te suivre. Depuis l'épisode 2, qu'est-ce qui s'est passé d'important pour notre histoire ?
Alors depuis, il y a eu notamment un article de Mediapart qui explique que l'IHU avait effectué une demande pour mener un essai clinique sur la tuberculose. Mais la NSM, l'agence du médicament, a refusé de donner son autorisation parce qu'elle a estimé que l'intérêt de l'étude n'était pas démontré et que les médicaments que l'IHU voulait utiliser étaient potentiellement dangereux. Mais l'IHU a tout de même administré ces médicaments à des patients et les résultats ont été déplorables hein, parce qu'il y a quand même eu 9 patients sur 21 qui ont eu de graves complications médicales provoquées donc par le traitement de l'IHU.
Ça, c'est ce qui concerne les études controversées, mais il y a aussi eu du nouveau du côté des différentes enquêtes qui visent l'IHU et le professeur Raoult.
Alors effectivement, d'abord, il y a la chambre disciplinaire de l'Ordre des médecins qui lui a adressé un blâme en décembre dernier pour avoir enfreint le code de déontologie en promouvant l'hydroxychloroquine sans avoir de preuves scientifiques que ce médicament serait efficace. La chambre disciplinaire n'a pas retenu les accusations de charlatanisme ni la prise de risque injustifiée. Mais l'histoire pourrait ne pas s'arrêter là car le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait appel de ce blâme a minima. Donc ça veut dire en fait qu'il réclame que la sanction soit plus sévère. Mmh. Sur le volet des études controversées datant d'avant l'épidémie, la NSM a envoyé des inspecteurs au sein de l'IHU, comme tu disais tout à l'heure, pour vérifier tous les potentiels problèmes révélés par nos enquêtes et par celles de Mediapart.
Dans ma vie, on m'a souvent envoyé des inspections très souvent pour me nuire, avec un a priori que nous n'étions pas sérieux, que nous ne faisions pas bien, et je n'ai pas eu d'ennui.
Et en fait, elle a rendu un rapport préliminaire qui a été diffusé par Mediapart en février dernier et qui pointe de très nombreux dysfonctionnements au sein de l'IHU.
Un rapport préliminaire, ça veut dire donc que l'enquête de la NSM n'est pas terminée.
Voilà, alors j'ai pu discuter avec des inspecteurs de la NSM qui m'ont expliqué que dans ce genre d'enquête, ils laissent la part au contradictoire. C'est-à-dire, en fait, ils vont faire leur enquête, ils vont rédiger leur rapport, mais ils vont donner la possibilité à l'institut ou à la personne qui est visée de répondre à ces accusations ou de corriger certaines erreurs. Donc là, c'est ce qu'ils ont fait lors de leur enquête à l'IHU, et c'est la raison pour laquelle Didier Raoult a répondu dans une longue lettre dont on va parler.
Ok, merci pour le résumé, c'est parfaitement clair. Je me souviens aussi que dans les précédents épisodes, on avait employé un vocabulaire assez spécifique. Alors je te propose un petit lexique rapide pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs. D'abord, on avait parlé de RIPH, recherche impliquant la personne humaine.
Exactement. Donc il faut savoir qu'en France, on les classe en trois catégories. De la moins sensible à la plus sensible, il y a la RIPH 3 qui ne demande pas d'autorisation spécifique. La RIPH 2 qui nécessite l'autorisation obligatoire d'un comité de protection des personnes, ce qu'on appelle un CPP, avant de commencer la recherche. Et les RIPH 1 qui nécessitent la double autorisation à la fois d'un CPP et à la fois de l'ANSM, qui est l'agence du médicament, je le rappelle.
Alors, ces autorisations, elles sont délivrées par un CPP, tu viens de le dire, un comité de protection des personnes. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ?
Alors, en fait, quand des chercheurs veulent faire une recherche qui implique la personne humaine et qui comporte certains risques, même s'ils sont très faibles, ils doivent envoyer leur protocole d'étude à un fameux CPP, qui est un comité d'éthique indépendant. Donc ce dernier va évaluer s'il y a un intérêt à mener l'étude, si les risques sont bien mesurés, si les patients qui participent ont bien eu un avis éclairé. Bref, il vérifie si la recherche est conforme à la loi, si elle est éthique.
Et un tout petit point sur un dernier acronyme, l'IHU, dirigé par Didier Raoult.
Alors c'est l'Institut Hospitalo-Universitaire en Maladies Infectieuses de Marseille. En fait, ça c'est une fondation publique-privée qui est sous tutelle de l'APHM, donc l'Assistance Publique des Hôpitaux de Marseille. En pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lorsque l'IHU mène des essais cliniques, lui, c'est l'investigateur, c'est-à-dire qu'il doit mener la recherche, il doit la surveiller, et l'APHM, donc la tutelle, en est le promoteur, donc le responsable.
Bon, cette fois, je crois qu'on est parfaitement au point pour décrypter l'étonnante riposte de Didier Raoult, qui est loin d'être à une contradiction près.
Vous trouverez 6 juin la réponse aux interrogations de l'ANSM, dont collectivement nous sommes très heureux de constater que les différentes attaques concernant l'IHU Méditerranée infection sur des traitements sauvages de la tuberculose se sont éteintes.
C'est pas très clair, Victor. Tu nous lis quoi, là ?
Alors ça, c'est la première phrase des 13 pages de la lettre de défense envoyée par Didier Raoult à l'ANSM. Donc c'est assez décousu, mais je pense que ça illustre bien le reste de sa ligne de défense, qui est elle-même assez décousue. Par exemple, je viens de te dire que l'IHU était sous la tutelle de l'APHM.
Oui, et alors ?
Eh bien, l'introduction de sa lettre, c'est un tir nourri contre cet institut. Didier Raoult écrit « L'APHM est dans un état de délabrement que je n'ai pas vu en Afrique. » Et son argument principal, en fait, consiste à rejeter la responsabilité de tous les éventuels problèmes concernant les études visées par l'ANSM sur le promoteur, donc sur l'APHM. Et surtout, il écrit quelques lignes plus tard que la lenteur administrative de l'APHM l'a forcé à trouver des solutions alternatives. En fait, il explique que comme l'APHM a mis trop de temps à lui répondre quand il lui présentait des études, il a décidé de se substituer à sa tutelle en endossant le rôle du promoteur.
Et il n'y a pas déjà là comme une petite contradiction dans la ligne de défense de Didier Raoult ?
En fait, il dit que la responsabilité incombe au promoteur, donc à l'APHM, et ensuite, il dit qu'il a endossé ce rôle. Donc, c'est assez étonnant. Et puis surtout, c'est hors sujet, parce que même si l'IHU était dans son bon droit de se substituer à l'APHM, ça ne le dispensait à aucun moment d'obtenir les autorisations des CPP ou de la NSM avant de commencer les études visées, comme la loi l'exige. Donc par exemple, il y a 2 essais cliniques qui se sont déroulés entre 2018 et 2019 et qui impliquaient des étudiants et des étudiantes de la faculté de médecine d'Aix-Marseille. Ces étudiants devaient prélever eux-mêmes des échantillons nasopharyngés, mais aussi fécaux et vaginaux, avant et après leur départ en vacances. Le but, c'était de comparer la prévalence de bactéries dans ces différents prélèvements. Bon, ça, ce sont des études RIPH 2. Donc ce que ça veut dire, c'est qu'elles nécessitaient l'autorisation d'un CPP avant de commencer ses études. Sauf que les résultats du premier essai, qui a été publié dans une revue scientifique, et les résultats de la deuxième étude, qui ont été publiés en ligne, ne mentionnent absolument pas ces autorisations.
Alors d'un côté, il y a les obsédés de la crotte anonyme, ce qui reproche à la recherche, qu'ils appellent la fraude, ce qui est un truc, c'est, écoutez, pour l'analyse de ce caca, est-ce que vous avez bien eu l'autorisation d'analyser un caca anonymisé. Vous voyez, c'est une question très très intéressante. Est-ce que pour ce caca, vous avez bien donné crédit au pays d'où venait le caca ? Sinon, c'est du néocolonialisme.
Ah oui, Victor, je me souviens qu'on a déjà parlé de ces études et de ces prélèvements.
Oui, effectivement. Et dans sa lettre, Didier Raoult dit qu'après avoir patienté 2 ans pour avoir le feu vert de l'APHM, il a finalement décidé qu'il s'agissait d'une étude basée sur le soin courant. En gros, il veut dire que ça ne nécessitait pas d'autorisation d'un CPP parce que les autoprélèvements vaginaux et fécaux seraient du soin courant. Donc c'est un peu technique, mais c'est important d'expliquer. En fait, il dit que ces autoprélèvements ne sont pas interventionnels, mais observationnels, ce qui, vis-à-vis de la loi, ne nécessiterait pas d'autorisation. Alors déjà, c'est assez amusant parce que dans la lettre, à peine quelques lignes plus haut, il reconnaît que les prélèvements fécaux sont bien des actes interventionnels. Mais surtout, peu importe son avis, finalement, parce que la loi, elle est très claire. Les autoprélèvements sont bien des actes interventionnels et ils nécessitent une autorisation d'un CPP. Quelques lignes plus tard, dans la même lettre, autre version, Didier Raoult dit que finalement, c'est pas en 2019 qu'ils ont considéré que c'était du soin courant, mais déjà en 2017. Il dit qu'à cette époque, il a donc demandé une autorisation de son comité d'éthique, donc le comité d'éthique de l'IHU, mais que cette demande a été égarée. Et le clou du spectacle, il explique enfin que comme il voulait publier le résultat de ses études dans des revues scientifiques, il a redemandé l'autorisation de son comité d'éthique. En 2019, son comité d'éthique lui répond qu'il veut bien donner un avis favorable à l'étude sur les étudiants et les étudiantes, mais uniquement si elle a obtenu l'accord d'un CPP. Et là, Didier Raoult répond « Ah, ça n'avait aucun sens comme réponse, puisque l'étude était terminée. » Effectivement. Et donc, qu'est-ce qu'il décide à ce moment-là? Ben, il décide quand même de soumettre ses études à des revues scientifiques en disant qu'il a obtenu l'autorisation de son comité d'éthique. Et puis, il y a un dernier point. On peut quand même s'étonner que la première étude a été publiée dans une revue scientifique. Donc, ils sont censés vérifier si les autorisations présentées par les chercheurs sont correctes. Eh bien, quand on regarde la revue scientifique en question, on constate que l'un des éditeurs associés est Philippe Gautret, qui est médecin à l'IHU et qui est surtout le premier auteur de l'étude en question.
C'est pratique. Donc si je résume, Didier Raoult reconnaît qu'il a commencé son étude sans l'autorisation de sa tutelle et surtout sans l'autorisation d'un CPP et qu'ensuite, il a décidé de soumettre ses études à des revues en disant que son comité d'éthique lui avait donné l'autorisation, ce qui n'est ni le cas ni légal.
Oui, c'est ça. Et puis, on peut encore ajouter autre chose, c'est que dans son rapport préliminaire, l'ANSM suspectait l'IHU d'avoir produit de faux documents. Donc en fait, quand les inspecteurs sont venus à l'IHU, ils lui ont demandé s'il avait reçu un avis favorable pour ses études. Et Didier Raoult leur a montré une note de son comité d'éthique, donc celui de l'IHU, datant d'août 2019 et portant la mention « avis favorable ». Les inspecteurs ont ensuite montré ce document au signataire du comité d'éthique et ce dernier l'a contesté et a dit que l'original enjoignait de soumettre l'essai à un CPP. Donc dans sa lettre, Didier Raoult ne reconnaît pas avoir produit un faux document, mais en revanche, il reconnaît que son comité d'éthique lui a bien dit d'obtenir une autorisation d'un comité de protection des personnes avant de pouvoir donner un avis favorable.
Dans la première phrase de la lettre que tu nous as lue tout à l'heure, il était aussi question de l'expérimentation sur la tuberculose. Est-ce qu'il y a des explications dans la lettre de Didier Raoult?
Alors déjà, on peut noter que Didier Raoult avait déclaré 6 jours après l'article de Mediapart que l'IHU ne fait pas de recherche sur la tuberculose.
Professeur Didier Raoult, faites-vous de la recherche sur le traitement de la tuberculose?
Non. C'est juste un gros mensonge. C'est pas vrai. Voilà, on a essayé. Et puis, on a eu une interdiction par l'ANSM basée sur on ne sait quoi, avec quelqu'un qui n'a pas fait de science dans sa vie. Donc, on n'a pas pu faire de recherche. Donc, on ne l'a pas fait parce qu'on a assez d'ennuis comme ça.
Dans sa lettre, il écrit cette fois « La tuberculose est un élément majeur de recherche à l'intérieur de l'IHU ». Au-delà de cette contradiction, il dit en gros qu'il est satisfait que les attaques de l'ANSM sur l'essai sur la tuberculose se soient arrêtées. En fait, il estime que l'ANSM va arrêter de le poursuivre là-dessus. En fait, ce que dit l'ANSM dans son rapport préliminaire, c'est que puisque les modalités de suivi des patients ne correspondent pas à celles d'un essai clinique, eh bien l'IHU n'a pas mené d'essai clinique sauvage. Bon, là, c'est un peu technique, encore une fois.
Un peu technique, mais je suis sûr que ça va être très clair une fois que tu nous auras expliqué. Donc, il s'agit de quoi?
Eh bien, en fait, on peut se demander pourquoi l'ANSM estime qu'il ne s'agit pas d'un essai clinique. En fait, l'IHU a probablement présenté un protocole à l'ANSM au tout début, un protocole qui a été refusé par l'ANSM. Mais ensuite, l'IHU a administré les médicaments contre la tuberculose, mais pas forcément dans le cadre de ce protocole. Donc, techniquement, il ne s'agissait pas d'un essai clinique sauvage. Certains pourraient penser que c'est un peu une galipette de l'ANSM d'avoir cette conclusion-là, mais on peut sans doute souligner que si un essai clinique sauvage avait été mené, l'ANSM n'a rien fait pour l'en empêcher, ce qui est un peu problématique pour elle, vu qu'elle est le gendarme de la santé. Mmh. Mais on peut aussi rappeler que l'ANSM a lourdement chargé l'IHU pour avoir prescrit des médicaments dangereux hors autorisation de mise sur le marché. Donc sans avoir le rapport final en main, c'est un peu difficile de se prononcer, mais il n'est pas du tout évident, comme Didier Raoult le suggère dans sa lettre, que l'ANSM abandonne totalement ses accusations concernant l'essai clinique sur la tuberculose.
Et concernant les autres séries d'études que tu avais découvertes dans tes précédentes enquêtes sur l'IHU, que dit l'ANSM?
Eh bien, il n'y a pas de réponse de Didier Raoult dans sa lettre, donc on peut imaginer que l'ANSM n'a pas interrogé Didier Raoult sur ce point, ou alors que l'IHU a prouvé que ces essais avaient été menés conformément à la loi. Et là, c'est pareil, il va falloir attendre le rapport final pour le savoir. D'ailleurs, l'ANSM devrait le rendre dans les prochaines semaines. C'est pas impossible qu'elle attende la fin de la campagne présidentielle, mais là encore, il va falloir s'armer de patience. En parallèle, il y a aussi l'Inspection Générale des Affaires Sociales, donc l'IGAS, qui mène une investigation sur l'IHU. Là, il n'y a vraiment aucune information qui a filtré. En revanche, il y a un volet légal à ces enquêtes, puisque le parquet de Marseille a été saisi, et ils m'ont confirmé que leur enquête est toujours en cours.
Donc, de potentiels nouveaux épisodes de notre série en perspective. Pour finir celui-ci, je voudrais qu'on s'intéresse aux médias qui a rendu public cette fameuse lettre de Didier Raoult, parce qu'il dit beaucoup de ce qui se joue en ce moment à l'IHU de Marseille.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Il n'y a pas de cas dans lequel les mécanismes de connaissance ne se soient pas heurtés au pouvoir en place qui pense avoir le monopole du dire.
Un pouvoir en place qui pense avoir le monopole du dire. En entendant ça, on a l'impression que Didier Raoult défend une conception plus politique que scientifique, Victor.
Oui, ça c'est son discours qui date de la semaine dernière et il l'a tenu à l'International Covid Summit.
L'International Covid Summit, c'est quoi ?
En fait, c'est un séminaire où était invitée en gros toute la fine fleur du complotisme sur le Covid à la fois en France et à l'international. L'objectif affiché de ce séminaire était de dénoncer la politique sanitaire du gouvernement. Et le casting en dit long. On a Robert Wallace Malone, qui est un biologiste moléculaire américain, diffuseur de fake news sur les vaccins. Il y a Pierre Cory, médecin américain qui préconise l'utilisation de l'ivermectine, qui est un petit peu nouvelle hydroxychloroquine. Il y a le docteur Modrux, urologue à la retraite, qui est poursuivi par l'ordre pour avoir promu le recours à la dite ivermectine. Il y a le sociologue Laurent Mukeli, selon qui le vaccin fait des milliers de morts. Le Laurent Toubiana, épidémiologue qui a crevé l'écran dans le documentaire conspirationniste Hold Up, etc.
Et tous ces gens-là se sont retrouvés à l'IHU de Marseille.
Oui, ça n'a pas manqué de choquer. Et avant la tenue du séminaire, il y a 5 des 6 membres fondateurs de l'IHU, dont le service des santé des armées, qui n'est pas vraiment habitué à prendre la parole, qui ont demandé à ce que Didier Raoult renonce à cette rencontre dans un communiqué commun. Mais le professeur marseillais a tenu bon et il s'est justifié en disant qu'il défendait la liberté d'expression et qu'il ne cautionnait pas forcément ce qui allait être dit. Sauf qu'en invitant tout ce beau monde au sein de l'IHU, c'est quand même une forme de caution.
Mais en entendant l'extrait de son discours que j'ai retenu, il ne donne pas vraiment l'impression d'être neutre.
Non, et ça renforce l'impression qu'il a décidé de communiquer en dehors de tout cadre traditionnel et avec des arguments vraiment surprenants. Et d'ailleurs, tous les spécialistes du droit qui ont lu sa lettre de réponse m'ont dit qu'ils étaient stupéfaits. Il y en a un qui m'a dit « Ce que je lis ressemble à la suite de ce qui précède, un festival de galéjade ». Un autre m'a dit « J'hésite entre mauvaise foi, ignorance ou incompétence ». Et en fait, ça donne l'impression que Didier Raoult a l'impression qu'il a raison contre le monde entier. Et tout ça est entretenu dans une sorte de bulle, en fait, avec des invités donc, au sein de ce séminaire-là, qui sont persuadés qu'il y a des complots partout.
À chaque fois que les gens ne sont pas d'accord avec le texte, le récit, le conte de fées qu'on nous raconte, c'est qu'ils sont complotistes. Si c'est être complotiste, oui, je suis complotiste. Voilà. Je ne veux pas devenir idiot, donc je suis complotiste.
J'en reviens aux médias qui a publié la fameuse lettre, Victor. C'est François, l'ancien grand quotidien devenu un blog qui relaie toutes les théories complotistes. On peut considérer qu'il fait partie de cette bulle ?
On ne peut rien affirmer simplement en lisant cette lettre. Mais on peut rappeler que François défend quand même très souvent et parfois très violemment l'IHU. Je rappelle que François a appelé à guillotiner un certain nombre de chercheurs qui avaient critiqué l'IHU. Mais bon, à ce stade, est-ce qu'il faut s'étonner que François soit tombé en possession de la lettre de Didier Raoult et qu'il la publie en estimant que c'est une brillante défense face à l'ANSM ? Je ne sais pas. Et puis, outre François, il y a aussi des personnes de son entourage dont les dérives interrogent vraiment. On avait déjà parlé du porte-flingue Éric Chabrière dans un précédent épisode. Il a insulté aussi des chercheurs qui s'interrogent sur les pratiques de Didier Raoult. Et récemment, il s'est félicité du soutien de manifestants qui scandaient le nom de Didier Raoult, écrit Raoult pendant la manifestation. Sauf que dans ces manifestants, il y avait des néo-nazis qui sont quand même assez facilement identifiables parce qu'ils avaient le bras bien levé. Et puis on peut aussi rappeler qu'il y a eu des raids de cyberharcèlement de plus en plus violents sur les réseaux sociaux qui sont commis par des fans de Didier Raoult. Et même dans la vraie vie, hein, puisque le domicile d'un homme qui s'appelle Crémieux, donc, qui a le même nom que le directeur de la PHM, a été tagué juste après que Didier Raoult l'ait critiqué à la télévision.
Une radicalité qui s'installe donc dans les propos comme dans les actes. Là encore, on suivra l'évolution de la situation avec toi. Merci beaucoup Victor.
Merci.
Victor Garcia, journaliste au service Sciences de l'Express. Tous tes articles, notamment sur ces études controversées de l'IHU de Marseille, sont à retrouver sur l'express.fr. Je rappelle que le premier mois d'abonnement est offert en ce moment. Quant à vous, chers auditeurs, si ce nouvel épisode de notre série au long cours vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, Apple Podcasts, Spotify ou Deezer par exemple. Vous pouvez aussi nous mettre des étoiles, nous laisser des commentaires ou nous écrire à laloupe@l'express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Baris, Jules Benveniste et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.